À quoi ressembleront les transports de demain? Ils pourront être 100% électriques, comme ce cargo de 80 mètres de long qui vient de sortir d'un chantier en Norvège. Il pourra transporter jusqu'à 120 conteneurs et permettra d'éviter 40 000 trajets en camion par an. Un bateau qui sera aussi bientôt 100% autonome, puisqu'il pourra avancer avec l'aide de senseurs installés sur son parcours. Le secteur maritime fait sa révolution verte.
240 km à l'heure et très peu de bruit. Notre exploration de l'avion du futur commence ici, à bord de l'Elixir, au-dessus du fameux Fort Boyard et du port de La Rochelle. Ce petit avion réussit la prouesse de consommer 3 à 4 fois moins que les avions conventionnels. Explication dans l'atelier de fabrication.
Aujourd'hui, notre avion va consommer entre 10 et 12 litres à l'heure. C'est une économie de quasiment 70% de consommation et donc d'émissions de CO2 en moins.
L'innovation majeure, la structure est très simple et complètement en carbone, inspirée des technologies nautiques.
On transforme une complexité de dizaines de milliers de pièces d'appareils en seulement 9-10 pièces. Et ça, c'est un bond colossal parce que moins de pièces, moins de défaillances, c'est comme un puzzle. Vous avez plein de pièces, c'est compliqué. Vous avez moins de pièces, c'est simple. Ça veut dire plus de sécurité, mais aussi en termes environnementaux, moins de masse, donc des moteurs qui sont beaucoup plus économes en carburant.
L'avion du futur doit aussi changer de motorisation. Les recherches vont dans toutes les directions. Ces petits avions électriques Vélis Electro sont en vol en région parisienne. Airbus travaille sur la motorisation à l'hydrogène, tout comme l'industrie américaine. Des investissements pour le très long terme. En attendant, la start-up TurboTech vient de créer des moteurs hybrides.
Le principe, il va être exactement le même qu'une automobile. On va avoir un moteur thermique. Entre autres, ici, c'est une turbine, donc c'est la miniaturisation d'un moteur d'Airbus. Nous, on l'a adjoint un système de récupération de chaleur pour en diminuer la consommation. Et cette turbine, elle est accouplée à un générateur électrique. Ce générateur électrique va transformer la totalité de la puissance de la turbine en électricité pour ensuite alimenter des moteurs électriques de propulsion.
Ces turbines fonctionnent à l'essence, au biocarburant et prochainement à l'hydrogène. Tout cela pour de petits avions. Mais le but de ces innovations dans l'aviation légère, c'est qu'elles soient transposables au transport de passagers. Alors, à quand l'avion zéro émission?
Les structures de nos appareils peuvent parfaitement se répliquer sur des gros avions. On voit que le composite, le carbone, est de plus en plus présent dans les gros avions commerciaux. Et donc, on a tout intérêt à faire émerger dans l'aviation légère ce type de technologie pour ensuite en faire bénéficier les plus gros appareils.
On peut dire que l'horizon de l'utilisation des ce qu'on appelle des SAF, Sustainable Air Fuel, donc plus globalement biocarburant, c'est à peu près dans 5 ans. Et ensuite, si on parle de l'hydrogène, c'est peut-être plus dans l'horizon 20-25 ans qu'on peut espérer avoir des moyens de distribution, un hydrogène vert, vertueux, qui va être produit en masse et qui pourra ensuite être utilisé dans nos motorisations.
L'enjeu pour le secteur aéronautique est de parvenir à produire un hydrogène de synthèse à faible coût et également de le stocker efficacement dans les avions. Les travailleurs aéronautiques d'aujourd'hui espèrent voir arriver ces innovations dans le transport commercial avant leur retraite.
Mais alors pourquoi l'hydrogène est-il envisagé pour l'avion du futur?
Bien, dans le contexte actuel de réduction des émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique, l'hydrogène présente un avantage capital. Il peut être produit à partir d'énergies renouvelables et donc totalement décarboné, ce qui permettrait des vols à zéro émission de CO2. Autre avantage, lors de sa combustion, un kilo d'hydrogène dégage jusqu'à 3 fois plus d'énergie qu'un kilo de kérosène. Mais c'est là que ça se corse. Un kilo d'hydrogène, ça occupe un volume beaucoup plus important qu'un kilo de kérosène. À l'état liquide, il faudrait 4 fois plus de place pour le stocker, tout en prévoyant des réservoirs particulièrement bien isolés et donc très lourds pour pouvoir conserver cet hydrogène dans sa forme liquide, c'est-à-dire à moins 253 degrés.
Et cela veut dire que les réservoirs actuels des avions, eh bien, ils ne sont pas du tout adaptés.
Oui, et même plus que cela, puisqu'il faudrait consacrer beaucoup plus de place pour l'hydrogène. Fatalement, ça fait moins de place pour les passagers ou pour les marchandises. Donc le modèle des avions tel qu'on les connaît aujourd'hui n'est pas adapté. Cet hydrogène liquide, il ne peut pas non plus être contenu dans les ailes comme c'est le cas aujourd'hui pour le kérosène. Et donc il faudrait par exemple allonger les avions pour pouvoir stocker cet hydrogène. Autre question qui se pose, c'est celle du remplissage des réservoirs. C'est un remplissage qui serait plus long et plus délicat aussi puisqu'on connaît la charge très explosive de l'hydrogène.
Et le seul avantage, alors, il se situe à quel niveau? Au niveau des émissions de gaz à effet de serre?
Oui et non. Bon, on l'a vu avec les émissions de CO2, si cet hydrogène est produit à partir d'énergie renouvelable, ça fait des émissions nulles. Mais ce n'est pas tout. On oublie parfois qu'aujourd'hui, on estime que les émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique dû à l'aviation ne sont que de 40%. On oublie que les 60% restants viennent en fait de vapeurs d'eau et des traînées de condensation, ce qu'on appelle les contrails. Or, on estime qu'avec l'hydrogène, ces traînées de condensation seront beaucoup plus importantes puisque l'hydrogène, lors de sa combustion, rejette jusqu'à 3 fois plus de vapeurs d'eau. Alors, cette vapeur d'eau, à haute altitude, en fait, elle va créer une barrière qui va réchauffer encore davantage l'atmosphère puisqu'elle empêche le rayonnement de s'échapper. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de nombreux experts doutent de la pertinence de développer une telle technologie pour l'aviation.
Comme quoi, rien n'est simple en tout cas quand on parle effectivement de lutte pour le climat. Merci.